Deux militants et un aumônier du Secours catholique sont en grève de la faim dans l'église Saint-Pierre à Calais pour protester contre les mauvaises conditions d'accueil réservées aux réfugiés. Pour en parler, je suis au téléphone avec Anaïs Vogel, en grève de la faim depuis une semaine. Bonjour.
Bonjour.
Comment se passe cette grève de la faim pour vous et puis pour les personnes qui sont avec vous?
Alors là, on est à la moitié du huitième jour. Ça va, franchement, ça va. Et puis en plus, on a de la chance, on est abrité à l'intérieur d'une église, il ne pleut pas sur nous, on a des couvertures, enfin on vit mieux que les 1500 personnes qui sont actuellement dehors en fait. 1500 personnes exilées, il ne faut pas oublier les SDF aussi. On ressent de la fatigue, ça c'est évident, puisqu'on ne mange plus, donc forcément notre corps a beaucoup moins d'énergie, mais globalement ça va, on est suivi par des médecins et nous disent eux-mêmes que ça va.
Pourquoi avez-vous choisi de faire la grève de la faim depuis une semaine avec Philippe de Mester et Ludovic Kolbein?
En fait, il y a 3 semaines maintenant, il y a un jeune Soudanais qui est décédé écrasé par un camion. Suite à ça, en fait, il y a eu un démantèlement d'un grand lieu de vie avec plus de 1000 personnes qui vivaient sur ce lieu de vie. En plus de ça, les personnes, les amis en fait, de ce jeune Soudanais qui est décédé l'ont vu mourir et quelques heures après, la police est venue les déloger en prenant, comme à chaque expulsion, toutes leurs affaires. Suite à ça, il n'y a eu plus quasiment aucun point où les associations pouvaient distribuer. En fait, c'est devenu très compliqué pour pouvoir fournir de la nourriture, fournir de l'eau, fournir des vêtements aux personnes exilées. Et on assiste à une montée de la violence à Calais qui est assez inouïe. Calais, de toute façon, c'est très violent, pas à cause des Calaisiens, mais par rapport à la politique qui est menée. Et du coup, en fait, il y a de plus en plus d'humiliations, de personnes qui sont gazées, de personnes qui vont à l'hôpital suite à des coups et blessures de la part des forces de l'ordre.
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas tous les détails de la situation à Calais, qu'est-ce qui pousse les réfugiés à arriver à Calais?
En fait, c'est souvent des personnes qui viennent d'Afghanistan, qui peuvent venir de Syrie, d'Érythrée, du Soudan. Et dans la grande majorité des cas, en fait, ces personnes ont un rêve, trouver une vie meilleure et notamment aller en Angleterre, en fait. Donc finalement, Calais, c'est la dernière étape en France avant d'essayer de rejoindre par camion ou par embarcation, donc des petits bateaux, pour essayer d'aller en Angleterre.
Alors, sachant qu'il y a de nombreux réfugiés depuis des années qui arrivent à Calais, pourquoi n'y a-t-il pas de centre d'accueil pour les réfugiés à Calais?
La maire de Calais, notamment, et la préfecture parlent beaucoup d'appel d'air. Donc, c'est-à-dire que, du coup, si on leur créerait des conditions un peu plus humaines, ils ont peur, en fait, qu'il y ait un appel d'air et que, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent et que ça soit encore plus compliqué, etc. Bon, tout le monde le sait, en fait. Les personnes qui font la route depuis l'Érythrée ou depuis le Soudan, ils viennent pas à Calais pour avoir un repas chaud et de l'eau. Je veux dire, à un moment donné, ils fuient leur pays qui est en guerre, ils fuient un pays qui est en dictature. En fait, juste, ils feraient ce que n'importe quel être humain ferait, et ce que nous, en tant que Français, on a pu faire aussi quand il y a eu la guerre. C'est-à-dire qu'ils essaient de trouver un endroit qui pourrait être plus sûr pour eux. Et finalement, la seule chose qu'ils ont envie, en fait, c'est une vie normale. Donc, c'est d'avoir une femme, d'avoir un mari, d'avoir un travail, d'avoir un logement, pour avoir beaucoup de témoignages de personnes qu'on connaît. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est une vie traditionnelle.
Donc l'État ne souhaite pas d'appel d'air, donc pas de mise en place de centre d'accueil. Et en plus, pour les associations d'aide aux réfugiés, des difficultés pour pouvoir exercer correctement leur activité.
Effectivement, il y a tout qui est mis en place pour qu'on ne puisse pas exercer notre activité. Mais pas que nous, les Calaisiens aussi, puisqu'on est au 14e arrêté anti-distribution au centre-ville. C'est-à-dire que quand vous allez au centre-ville de Calais, il y a beaucoup de rues, en fait, où c'est interdit de distribuer de la nourriture et de l'eau gratuitement. Et donc, on peut avoir une amende. Et ça concerne aussi bien les associations que les Calaisiens ou les Calaisiennes qui voudraient, à un moment donné, aider. En fait, on est clairement dans un délit de solidarité.
Quelles sont les associations qui essayent d'intervenir sur Calais?
Il y en a plein. Il y a énormément d'associations, je ne pourrais pas vous les dire toutes, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'associations.
Pourquoi les forces de l'ordre interviennent-ils régulièrement pour déplacer les réfugiés? Est-ce que les forces de l'ordre préviennent avant leur intervention pour permettre aux réfugiés de ranger leurs affaires, par exemple?
Alors, il faut savoir que depuis quelques semaines, en fait, il y a des expulsions quotidiennes. Donc, ça veut dire que tous les jours, effectivement, les forces de l'ordre arrivent et saisissent absolument tout. Tentes, les vêtements, les chaussures. Malheureusement, parfois, il y a des cas de violence. La nourriture, on a déjà assisté aux forces de l'ordre qui gazaient en fait la nourriture.
N'y a-t-il pas des droits qui protègent justement les réfugiés qui arrivent en France contre justement cette saisie de leurs affaires?
Clairement, c'est du vol, en fait. Enfin, je veux dire, on leur vole leurs affaires, on leur prend, quoi. Et bah, j'imagine que si, mais de toute façon, à Calais, on va tout faire pour que la loi soit détournée. Hein.
Malgré toutes les difficultés, est-ce qu'il y a un dialogue entre les associations d'aide aux réfugiés et l'État?
Bah, c'est une de nos revendications, effectivement, l'ouverture d'un dialogue, parce qu'effectivement, pour le moment, il y a un mini-dialogue, c'est-à-dire qu'en 2021, on a eu deux réunions avec la sous-préfecture. Dans cette réunion, sont conviées certaines associations, un ou deux membres par association, pas plus. Les personnes exilées n'ont pas le droit d'y assister, puisque à la préfecture ou à la sous-préfecture, la réponse c'est vous êtes les associations, vous représentez la voix des migrants. Pas du tout, hein. Enfin, nous, on est une association, on se rend compte de ce qu'ils vivent au quotidien, mais on n'est pas du tout la voix des migrants. Enfin, je veux dire, la meilleure voix des migrants, c'est eux, en fait. Mais ils ne sont pas du tout les bienvenus. Et même par rapport, enfin, pendant ces réunions, en fait, il y a aucun, on n'est pas écouté, on n'est pas cru. De toute façon, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on ment. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un dialogue? Je suis pas sûre.
Quelles sont les possibilités d'intervention des associations d'aide aux réfugiés sur Calais?
Bah, en fait, elles sont très très maigres. Avant, il y avait des points de distribution où on pouvait distribuer, on pouvait y aller et ça se passait plus ou moins bien. Entre guillemets. Aujourd'hui, en fait, il n'y en a presque plus. Il y a quelques points de distribution qui sont accessibles pour tout ce qui ne concerne pas la nourriture. Par contre, ce qui concerne la nourriture, en fait, c'est hyper compliqué puisqu'à chaque fois qu'on arrive à pérenniser un lieu, il y a un arrêté municipal ou préfectoral qui est mis en place et donc on doit se déplacer. Donc en fait, c'est le jeu du chat et de la souris. Plutôt que de travailler ensemble, en fait, on travaille les uns contre les autres. C'est incroyable.
Vous nous disiez que les forces de l'ordre interviennent régulièrement pour saisir les affaires des réfugiés. Et il y a aussi régulièrement des déplacements de réfugiés et des mises à l'abri forcées. Alors, quel est le but de ce dispositif?
Alors, effectivement, lors du grand démantèlement, en fait, les personnes sont forcées à aller dans des centres d'accueil. Oui, elles sont forcées parce qu'en fait, les forces de l'ordre les tirent, enfin, ils n'ont pas le choix. Bah, le dispositif, c'est des centres d'accueil qui sont un peu dispatchés partout. Mais surtout, c'est d'éloigner Calais, en fait. Effectivement, c'est des lieux où ils peuvent dormir à l'abri, c'est des lieux où ils reçoivent de la nourriture. Et, a priori, ils peuvent faire leur demande d'asile. Sachant que la plupart, en fait, la demande d'asile n'aboutit pas. Et avec la procédure Dublin, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes, le premier pays où elles entrent en Europe, en fait, leurs empreintes sont prises. Et du coup, quand il y a la procédure Dublin qui se met en place, par exemple, si la personne a déposé ses empreintes en Italie, au moment où elle fait la demande d'asile en France, la procédure Dublin rentre en place et il y a de très fortes chances qu'elle doit retourner en Italie.
Quelles sont vos demandes pour suspendre votre grève de la faim?
Alors, il y en a trois. La première, c'est l'arrêt des expulsions, notamment pendant la trêve hivernale. C'est le minimum, on pense. Ensuite, c'est l'arrêt de la confiscation ou de la dégradation du matériel ou des affaires personnelles des personnes exilées. Puisque, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, quand il y a des expulsions, ils doivent quitter leur lieu de vie. On leur saisit leur tente, on leur saisit leurs affaires, on leur gaze parfois la nourriture, etc. Donc, tout est pris, même leurs papiers. Et le troisième, c'est l'ouverture d'un dialogue raisonné entre les autorités publiques et les associations non mandatées par l'État. On aimerait avoir des réunions plus régulières, parce que finalement, deux réunions par an, c'est vu comment ça change la situation à Calais, c'est pas possible, en fait. Et on aimerait aussi que pendant ces réunions, on puisse discuter, se mettre d'accord sur des lieux de distribution, sur la mise en place de bennes à déchets, sur la mise en place de points d'eau fixes, et évidemment que pendant ces réunions, les personnes exilées puissent parler, en fait, puisqu'ils ont une voix. Et pourquoi pas des journalistes, puisque les journalistes, en fait, vont retransmettre... et pourront avertir l'opinion publique.
J'étais au téléphone avec Anaïs Vogel, actuellement en grève de la faim à Calais, pour protester contre les mauvaises conditions d'accueil réservées aux réfugiés.